en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une scène de nuit éclairée par la pleine lune. Debout dans l'éblouissante blancheur des champs de coton, un cow-boy, chapeau blanc sur la tête, chemise jaune, veston noir, jeans bleus et foulard rouge. Il a sorti son flingue. Vous aurez évidemment reconnu Lucky Luke. Mais si sur cette couverture il apparaît loin de chez lui, il n'est pas seul. Dans le lointain, quatre membres capuchonnés du Ku Klux Klan, armés de bâtons enflammés. Et à ses côtés, un shérif, ou plutôt un marshal noir, avec son étoile jaune et de grosses moustaches. Pour la première fois, Lucky Luke va en effet se retrouver confronté à la ségrégation raciale et au racisme envers les Afro-Américains. L'album Un cow-boy dans le coton, signé Jules et HD, est disponible chez Lucky Comics et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour HD.
Bonjour.
Bonjour Jules.
Bonjour.
Pourquoi aborder maintenant cette question du racisme et de la ségrégation, Jules ? Quel a été le déclic ?
Ça aurait pu venir après. Une des gageures, quand on reprend Lucky Luke, après les très nombreux albums merveilleux de Maurice et Goscinny, c'est de se renouveler, de trouver à chaque fois des thèmes, des idées nouvelles, qui soient à la fois fidèles à l'esprit de la série, c'est-à-dire basées très souvent sur des faits historiques, sur vraiment quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, et pas dans juste la pure fantasy, et de pas répéter des espèces de petites recettes qui seraient juste destinées à faire vivre la licence de manière un peu stérile. Et donc, avec HD, on a discuté longuement de tous les thèmes qu'on pouvait encore aborder. Il y en a pas mal qui n'ont pas été faits. Mais un qui s'est imposé, finalement, c'est cette histoire des États du Sud des États-Unis et évidemment de la communauté noire et de cet héritage de l'esclavage. Parce que, en fait, Lucky Luke a abordé énormément de questions différentes, de communautés différentes dans son passé, dans les albums existants. Mais les Noirs étaient singulièrement absents. C'était vraiment l'éléphant dans la pièce, en un sens.
Mais c'est étonnant quand même. Pourquoi ?
C'est très important dans l'histoire américaine.
Il y a un élément d'explication. Pourquoi est-ce que jamais Lucky Luke n'a été confronté à ce sujet qui est quand même majeur, justement,
alors,
dans l'histoire des États-Unis ?
On n'a pas de réponse absolument certaine. Il y a deux, trois choses évidentes, qui est que d'abord, Lucky Luke, c'est une série d'humour, d'action, qui est destinée aussi à un public de jeunesse, bien que leurs parents, les grands-parents lisent aussi ces albums. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement douloureux et délicat. Comment le traiter en comédie ? C'était un peu le défi qu'on devait relever. Parce que, voilà, c'est un peu de la dynamite à bouger. Il y a aussi la question de l'invisibilité inconsciente des Noirs dans la bande dessinée en général et dans la culture populaire. C'est valable pour le cinéma, pour la littérature. Il n'y a pas beaucoup de héros noirs dans la BD franco-belge. Bon,
et en fin et de compte...
Et de femmes.
Ouais, et de femmes, effectivement.
Et pour le coup, bien sûr. Et c'est quelque chose dont on est héritier nous-mêmes. Et quand on a commencé à travailler sur cette idée de la Louisiane, on avait envie. Moi, j'avais envie de voir les dessins d'HD sur le bayou louisianais, les plantations.
On va y venir parce que c'est impressionnant.
Et voilà. Et évidemment, la question qui nous saute aux yeux, c'est cette question de la ségrégation, de la violence raciale qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui dans ces régions. Et donc, voilà, on a tiré le fil de cet univers-là du Sud. Et très naturellement, voilà, ça nous a amené à évoquer ces questions qui sont des questions difficiles, mais qu'on a essayé de toujours garder. De traiter avec une justesse historique, mais la légèreté qui est propre à cette série quand même.
Alors le pitch, comme on dit, est le suivant. À sa grande surprise, Lucky Luke va hériter d'une plantation de coton en Louisiane, plantation léguée par une dame qui était une fan absolue de ses exploits. Premier problème, il n'est pas planteur, il n'est pas cultivateur, Lucky Luke, il est cow-boy. Deuxième problème, l'argent ne l'intéresse pas vraiment, donc ça ne l'intéresse pas plus que ça, finalement, cette plantation. Troisième problème, il ignore finalement la situation de la ségrégation dans ce sud des États-Unis. Il ignore les codes de cette petite société qui vit assez repliée sur elle-même. On est dans la foulée de la guerre de sécession, dans la décennie 1870, c'est bien ça. Et en fait, tous les stigmates de l'esclavage sont encore là.
Oui, parce que finalement, rien n'a changé. Il y a des gens qui sont peut-être un peu surpris de se dire, mais quand même, bon, Lucky Luke est quand même un sudiste, d'une certaine façon, puisque c'est un Texan. Mais je pense qu'à l'époque, c'était la réalité, c'est-à-dire l'immensité d'abord de l'Ouest américain faisait qu'on savait pas trop ce qui se passait à côté. Ça intéressait pas vraiment les gens. Un cow-boy, finalement, c'était quand même un métier vraiment, l'un des métiers les plus bas, c'était très peu payé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de Noirs sont partis à la conquête de l'Ouest et ont fait après la guerre de sécession ce métier-là, parce que c'était un métier peu payé. Ce qui se passe, c'est que dans ce sud un peu idéalisé que nous avons fait, parce que c'est pas purement la Louisiane, c'est très compliqué de faire vraiment un ouvrage purement historique. On est, comme disait Goscinny, nous traitons d'un sujet sérieux, pas sérieusement. Et d'ailleurs, Goscinny a quand même traité de sujet, on l'a un peu oublié, mais je me rappelle, par exemple, dans Des barbelés sur la prairie, c'est la spoliation des terres des fermiers par les gros.
Ah, c'est hyper politique, c'est
et
vrai.
C'était quand même très politique. La réhabilitation et la réinsertion judiciaire avec les Dalton se rachètent. La psychanalyse avec les... Bon.
La guérison des Dalton.
Alors, c'est vrai que c'est aussi, quand on me dit, mais pourquoi Maurice n'a pas attaqué tout ça, c'est que d'abord, comme le disait Jules très justement, au départ, c'est une série qui était publiée dans un magazine pour enfants. Deuxièmement, pendant très longtemps, la bande dessinée est encore un peu sous le coude, mais il y avait la loi de 1949 sur la jeunesse. On pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et donc, ça correspond à une certain type de BD. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il est ouvert sur le monde et donc il découvre la BD. Alors, 1870, c'est presque encore pire pour la communauté noire. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que quand ils étaient esclaves, ça c'était abominable, ils étaient considérés comme un bien mobilier ou comme un bien animal. C'est-à-dire que c'était un outil de production. Donc à la limite, hormis ceux qui cherchaient à s'évader, etc., ils étaient plutôt correctement nourris, ils étaient logés parce qu'il fallait qu'ils produisent, qu'ils travaillent. Du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls, sans boulot. Et les planteurs ont bon dos de leur dire, si vous voulez travailler, pas de problème, mais on vous paiera tant. Et c'est une misère. Et là, plus question de les nourrir, plus. Rappelez-vous, dans Autant d'emporte le vent, cette petite phrase qui dit, au milieu du film, entre deux moments, il dit, finalement, ils vont nous coûter moins cher, libres, que esclaves.
Voilà, cynisme absolu, mais c'est réalité historique.
C'est réalité, et c'est ça qui est terrible. Et il a fallu, et c'est vrai, avec Jules, on a essayé quand même de dédramatiser. C'est quand même un album, je disais, donc, sur un thème sérieux mais pas sérieux, on s'amuse avec.
Justement, dans une BD pour enfants, même si Lucky Luke c'est bien plus qu'une BD pour enfants, mais soyons clairs, dans une BD comme celle-ci, jusqu'à quel point on peut montrer, on peut dessiner la misère, justement? Vous êtes forcément posé la question.
On s'est posé la question. C'est vrai que d'un côté, Jules, lui, dans ses dialogues et dans ses situations proposées, on peut pas... On est quand même là sur une bande dessinée qui est quand même là pour donner du bon temps. Alors on essaye d'être le plus précis historiquement, que ce soit les bâtiments, les décors, que ce soit même les costumes du premier clan, parce que là c'est le premier clan qui a existé de 1865 à 1871. Donc tout est exact. En revanche, on essaie quand même de dramatiser. Les Dalton sont faits pour ça. Jules a introduit les Dalton pour que à chaque fois on ait cette respiration et on dédramatise. Pour ce qui est de représenter, moi j'ai quand même dû me freiner pour certaines choses, parce que bon, je collectionne les photos anciennes des États-Unis, des documents anciens, et c'est vrai que la misère, comme moi j'ai pu le découvrir, notamment chez les enfants, avec des enfants en haillons, mais quand je dis en haillons, on ne s'imagine même pas, c'est difficile à représenter, parce qu'on se dit, est-ce que là, on va pas casser finalement ce qu'on essaye de montrer, c'est-à-dire ce sujet difficile, mais en le dédramatisant, sans pour autant occulter les problèmes.
Land. Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses. Go. Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
My People Go et la voix de Louis Armstrong, bien sûr, une chanson qui se glisse d'ailleurs dans l'une de vos cases, hein, HD Jules, une des plus emblématiques de chaque aventure de Lucky Luke. Les aficionados sauront sans doute deviner laquelle. Il y a toute une série de clins d'œil, hein, évidemment, qui parsèment la lecture, qui permettent justement de conserver l'esprit gag qu'HD nous expliquait à l'instant face à une situation qui est quand même pas très reluisante. Et parmi les noirs de la plantation, il y a un personnage qui sort du lot tout de suite. C'est une jeune femme, plus svelte et plus élancée que les autres, avec un fichu orange sur la tête, avec des gestes très vif. Quand elle apparaît d'ailleurs dans une case HD, vous faites toujours ce qu'on appelle des traits de mouvement autour de ses bras, autour de ses jambes, autour de son visage aussi. On voit la passion, la véhémence du personnage et de ses propos. D'ailleurs, les propos se terminent toujours par deux points d'exclamation. Aussi, vous le soulignez aussi graphiquement. Ce personnage, c'est Angela. Si elle s'appelle Angela, Jules, c'est pas totalement un hasard.
Bah, c'est peut-être, en tout cas, intellectuellement, une lointaine ancêtre d'Angela Davis, cette grande combattante des droits civiques. Pour les Noirs.
Alors, il y a des phrases qui claquent, hein. Évidemment, par exemple, elle dit, on ne va pas se laisser mener comme des moutons de panurge par un gardien de vache. C'est ce qu'elle dit à Lucky Luke lors de leur première rencontre, hein, qui est assez particulière et qui va vraiment déboucher sur quelque chose d'assez surprenant. Il y a eu, de la part de Lucky Luke, évidemment, une vraie empathie pour les Noirs, hein, évidemment, comme défenseur de la veuve et de l'orphelin, comme chevalier, finalement, du Far West. Il devait, évidemment, répondre à cette situation. Quels sont, HD, les détails graphiques qui font passer au lecteur le trouble dans lequel Lucky Luke se retrouve jeté face à cette situation à laquelle il s'y attendait pas du tout.
C'est-à-dire que petit à petit, je crois que on a essayé avec Jules de le faire passer par tous les détails, parce que très longtemps on a pensé que Lucky Luke était purement quelqu'un de non émotif, de très neutre, presque apathique.
C'est pas le cas dans cet album.
Pardon ?
C'est pas le cas dans cet album.
Non, c'est pas le cas, mais ça l'était pas. Moi, je reprends la guérison des Dalton. Il y a un moment, Lucky Luke s'assoit sur une souche et puis il en peut plus parce que les Dalton lui font de la peine. Donc il y avait déjà ça, mais c'est vrai, ce qui a été bien, c'est d'intégrer finalement toutes ces étapes, c'est-à-dire au départ, on le montre neutre, qui part à l'aventure comme n'importe quel album. Petit à petit, il est surpris, il découvre une situation auquel il s'attendait pas. Après, il commence à se révolter, il s'énerve. Et puis presque à la fin de l'album, là, on commence à s'inquiéter parce que ça fait partie aussi du suspense. Là, il est totalement désarçonné et presque effondré, parce que pour la première fois, je disais toujours, c'est que régler un problème de guerre indienne, très facile. Désarmer Billy the Kid, c'est très facile. Empêcher un colonel de la cavalerie américaine de relancer des guerres indiennes, pas de difficulté. Mais là, faut faire changer toute une population d'un état d'esprit invraisemblable.
Oui, c'est vrai qu'il est désarmé, notre cow-boy, Jules. On peut pas,
on l'annonce
d'un
déjà,
coup de flingue, effectivement, régler le problème du racisme.
On l'annonce dans les premières cases. Quand il retrouve son compère Bass Reeves dans l'Ouest, avant de s'enfoncer dans la Louisiane. Alors,
Bass Reeves, c'est le fameux Marshall Noir.
Ce fameux Marshall Noir qui lui sert un petit peu de guide, d'introduction à cette culture qu'il connaît mal. Il lui dit, mais tu sais, là, ça ne se passe jamais comme ce à quoi on peut s'attendre là-bas. C'est-à-dire, les codes sont pas les mêmes. Et ce qui était marrant, je trouve, c'est que moi-même, j'avais cette idée de dichotomie entre le Nord et le Sud. C'était ça, la guerre de sécession. Mais il y a toute une ambiguïté sur l'Ouest. En fait, l'Amérique, c'est pas juste une espèce de continent qui serait coupé en deux par une ligne horizontale. En fait, il y a plein de spécificités, de cultures différentes qui ont eu des rôles parfois très ambigus et qui ont changé au cours du temps. Mais effectivement, quand on fait débarquer l'Ouest, c'est-à-dire Lucky Luke, Jolly Jumper, les Dalton à ses trousses, au milieu de cette espèce de monde nord-sud, eux-mêmes, alors Lucky Luke, les Dalton ne comprennent pas, ont pas les codes. Les Dalton pensent que voilà, les Cajuns sont des Mexicains, que le Ku Klux Klan est une tribu indienne, mais de même que les contremaîtres de blancs qui travaillent dans les plantations ne veulent pas croire que Lucky Luke vient de l'Ouest. Ils passent leur vie à dire oui, c'est un type du Nord qui vient nous emmerder, alors que, et Lucky Luke il dit mais pas du tout, je viens de l'Ouest. Et cette question-là, elle est récurrente. Et d'ailleurs, c'était très marrant de pas aussi être manichéen dans la représentation des blancs de Louisiane. Et je pense que moi, il y a des chapitres qui me plaisent beaucoup dans cet album, et Hervé HD les a bien rendus. C'est ceux avec les Cajuns. Donc ces blancs très pauvres qui vivent dans le Bayou, qui parlent encore ce français hérité du XVIIIe siècle, ultra créolisé, hein, dans lequel il y a des mots justement des Noirs, des mots des Indiens Houma, qui étaient les Indiens des Marais, ces espèces de mélanges-là, il est fascinant à mettre en scène, et pour moi ça comptait, pour rendre toute la complexité d'une telle région et d'une telle histoire.
Alors il y a effectivement une scène hein, avec un vieux Cajun hein, qui déboule, c'est le cas de le dire, dans l'album, c'est un moment très très drôle. Déjà graphiquement, c'est drôle, le personnage me rappelle quelqu'un, mais je suis incapable de dire précisément qui.
Ce
vieux personnage-là.
Je vous laisserai deviner. Je glisse toujours des indications.
Ah, forcément. Hein.
Mais non, c'est vrai que mes personnages, la caricature graphique, pour moi, n'a pas d'incidence. Par contre, sur le tempérament et sur, c'est ce qu'on m'a demandé. Chaque fois, on me dit, mais c'est pas compliqué. Vous avez dû dessiner des noirs. Est-ce qu'il y a eu des codes? Finalement, moi, j'étais moins inquiet presque à la limite que mon éditrice. Il dit, mais non. Quand on dessine un Ho Chi Minh ou un Hoa, on peut pas dire que on les gâte physiquement. Et mes Cajuns, si vous les regardez, c'est pas des prix de beauté. Mais à côté de ça, on les adore parce que ils sont attachants, la façon d'évoluer, la façon dont ils acceptent. Même si, comme à cette époque, qui est quand même une époque violente, au départ, il est prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Hein. Mais voilà, et c'est vrai que, j'aurais aimé qu'on. On ne peut pas tout mettre, on a 44 planches, et c'est vrai que j'aurais aimé.
Ça aurait pu être un vaste album.
Parce que c'était tellement vaste, parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de ce côté déportation de ces Français d'Acadie qui sont devenus des Cadiens, puisque d'ailleurs, on ne parle pas du Cajun, on parle de l'Acadien de Louisiane. Et c'est vrai que cette population, c'est étaient comme pour les Noirs, ils étaient eux aussi mis de côté, envoyés dans les bayous et vivre là-bas. Quand vous allez dans les bayous ou quand vous allez dans les marais de Floride, vous dites vivre là-dedans, il faut le faire.
Vous êtes plongé dans la langue cadienne, Jules.
Pour moi, c'était très important de rendre ça vivant.
Alors justement, là, vous avez l'album devant vous. Vous pouvez nous lire avec l'accent cajun.
Moi, je suis très mauvais en accent.
Justement, le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec l'accent québécois.
Il faut faire attention. Alors on vous écoute. Essai.
C'est un accent purement imaginaire, mais en gros, j'espère que je ne vais pas faire du Michel Leb. Hein. Dis-moi donc quel maringouin t'a piqué, toi. C'est-il donc que tu sois bien dérasé de la chaudière pour que tu m'en viennes taquiner le bourrasteur? T'es pas un chrétien de notre paroisse, toi, bonhomme.
Bref. Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas facile, mais en fait, et donc, il fallait que ce soit fluide, qu'on n'ait pas besoin de sous-titres, en fait, et que même maringouin, ça veut dire les moustiques. Bon, on est dans le marais, quel maringouin t'a piqué? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un décodeur. Et ça, c'est un petit peu tout au long de ces pages.
Il est un peu modernisé quand même.
Hein, quand même.
Voilà. Parce que magasiné a été inventé beaucoup plus tard. Hein, ouais. Donc,
bon, mais HD m'a donné les références en fait, d'un gros lexique français cajun, en fait, qui était numérisé et tout, que j'ai pu trouver sur Internet, parce que le bouquin était difficile à trouver. Et en fait, je me suis fait quand même toute une petite session linguistique en notant tous les mots un peu emblématiques. Les cocos pour les alligators, etc. Les chevrettes pour les crevettes. Et tout ça, en fait, tout d'un coup, ça donne parfois des sources de gags. Le fédodo, qui est la grande fête cajun dans laquelle les Dalton sont embarqués, ils pensent qu'on les invite à un fédodo, c'est qu'ils vont pouvoir se reposer.
Oui, fédodo, oui.
Et en fait, le fédodo, c'est la fiesta cajun à décorner les bœufs. Donc voilà.
Alors, juste pour se mettre dans l'ambiance, justement.
Alors écoutez, Jack Leger sur le trottoir, Austin et Ambroise Thibodeau sur l'accordéon et compagnie. Go! We'll be right back.
haricots sont pas salés, ou plutôt les haricots sont pas salés, puisque les Cajuns, ouais, visiblement, font la liaison. Et la musique Cajun d'Ambrose Thibaudeau, qui nous emmène donc au cœur de cette Louisiane avec nos invités HD et Jules et leur fils adoptif Lucky Luke, hein, pour cette nouvelle aventure, un cowboy dans le coton paru chez Lucky Comics, et que quelques-uns d'entre vous vont d'ailleurs pouvoir gagner à la fin de l'émission en répondant à la question du jour. Alors, la Louisiane, HD, les paysages, des bayous, les plantations, ça a dû être un sacré bonheur quand même de les dessiner. Vous êtes documenté sur la faune, la flore, par exemple, quand je regarde la page 21 là de l'album, on voit les Dalton progresser dans le marais, il y a des animaux extraordinaires,
avec les brumes, hein.
Avec, ouais, les cyprès chauves, avec toutes les lianes, les hérons, les alligators. Bon, après c'est aussi un peu des souvenirs, mais c'est vrai que bon,
des souvenirs parce que vous êtes allé sur place.
Ah bah, je suis allé, oui, dans le sud des États-Unis, mon dernier séjour c'était dans fin des années 90, mais bon, c'est surtout quand même beaucoup de documentation. Alors comme moi je suis un vieux,
mais c'est authentique, la végétation, la faune, la flore, elle est authentique.
Ah oui, vraiment les cyprès chauves, c'est comme ça. Vous avez des... Alors ma femme vous expliquerait ça mieux que moi, parce qu'elle est botaniste, mais bon, avec ces espèces de monticules qui viennent pour chercher l'oxygène, parce que c'est des fois dans l'eau, pas dans l'eau. Les mocassins d'eau qui sont des serpents, enfin, c'est vrai que c'est assez proche de ça. Et là, vous vous dites, les gars qui vivent là toute l'année, ils ont quand même du courage. Non, ça c'est... Alors celui-là d'album, ça a été ce que j'appelle... Parce que chacun de mes albums sont calculés en poids de documentation, donc celui-là c'est un 16 kilos.
Ah oui, quand même. Voilà. Donc c'est plutôt dans la moyenne supérieure.
Voilà, ça a plutôt été dans la moyenne supérieure, parce que le pire, c'est toujours les idées farfelues du scénariste.
Ah oui,
c'est
pas avec Jules, vous êtes servi.
Ah oui, parce que c'est pas tant sur la nature que ça a été compliqué, c'est sur l'architecture des plantations. Et là,
mais c'est vraiment important d'être authentique, même dans une BD d'humour ?
Oui, parce que malgré tout, même si on fait un western idéal, il faut qu'il y ait une part de vrai.
Donc, sinon ça marche pas.
Ben non, là on part par exemple d'un fait exact, c'est-à-dire l'ère juste post-abolition, et qui est exact dans l'atmosphère et les conséquences. Bon, après ça va être dramatique, quelques années plus tard la loi Jim Crow va arriver, qui sera la base de la ségrégation raciale dans le sud. Mais là, c'est cette partie qui est assez bizarre. Et pour le dessin, ben c'est pareil. Maurice disait toujours, même si je fais un pastiche de OSR, même si le truc, quand il dessinait une diligence, c'est une diligence. Il faut que malgré tout, le lecteur y croit. Alors après, évidemment, quand je fais mes grenouilles, elles sont rigolotes.
Oui, forcément. Alors justement, à propos de crédibilité de la bande dessinée, à propos du raccro en quelque sorte entre le scénario et la vraie histoire, il y a ce personnage de Bass Reeves qu'on a évoqué de façon très très subreptice tout à l'heure. Jules, le premier Marshal noir nommé à l'ouest du Mississippi, c'est bien ça, j'ai bien révisé.
Marshal adjoint, faut quand même.
Marshal adjoint. Ah d'accord. Faut pas aller trop vite. En besogne. Alors, c'est vrai que c'est une grande tradition, hein, dans Lucky Luke d'introduire des personnages qui ont réellement existé. Il y a eu Billy The Kid, il y a eu Sarah Bernard, il y a eu Calamity Jane, il y a eu Roy Bean, le premier juge à l'ouest du Pecos, si mes souvenirs sont bons.
Oui,
voilà,
vrai.
Les héros du Pony Express, etc. Comment est-ce que vous l'avez découvert, ce Bass Reeves HD?
Tout à fait par hasard. C'était lors de l'élaboration de La Terre Promise, où je recherchais des documents sur les...
Donc, La Terre Promise, c'est le premier album que vous avez fait tous les deux.
Jules, oui. Et je travaillais sur les communautés, les vagues migratoires, finalement. Et je tombe tout à fait par hasard sur justement l'apport noir afro-américain à la conquête de l'Ouest. Et là, tout d'un coup, je découvre un type qui s'appelle Bass Reeves, et qui est finalement assez dingue, parce que son histoire, c'est Lucky Luke. Hein. C'est un type qui naît esclave, qui s'échappe finalement, qui se réfugie d'abord chez les Séminoles, puis chez les Cherokees, et puis après, il devient fermier, il se marie, il fait une tripotée de gosses, mais il s'est bien tiré au revolver. Et là, il est repéré par un juge fédéral qu'il nomme Marshal adjoint, ce qui est incroyable, parce qu'un shérif, c'est quelqu'un qui est élu. Donc vous pouvez être opticien, ne pas voir à 3 mètres, et vous devenez shérif d'une ville. En revanche, Marshal, vous êtes un homme de loi qui va travailler à la fois sur son état, mais il peut sortir de son état. Et ça, c'était unique. Et ce type-là a réalisé près de 3000 arrestations. Et c'est quantifié, c'est noté, etc. Alors, on a passé aussi un peu sur le côté que, bon, c'est quand même une fine gâchette, donc il y en a quand même quelques-uns qui sont partis des pieds devant et qui ont été enterrés 6 pieds sous terre, selon la formule consacrée. Mais c'est un personnage... Et comme, avec Jules, on a cette même vision de la série Lucky Luke, où il faut des personnages historiques. Quand j'en ai parlé, Jules, finalement, alors, on avait des idées. Moi, j'avais une idée peut-être de faire une sorte de road movie avec Bass Reeves et Lucky Luke. Luc. Et puis finalement, reprenant son idée de plantation, ça a permis de faire finalement cette introduction au récit de Jules. Et puis évidemment, en faire un Deus ex machina.
Alors ça, c'est intéressant, parce que j'avais besoin d'un personnage noir fort. J'allais en créer un de toute pièce, en fait, de l'imagination.
Et c'est lui quand
Hervé arrive avec ce personnage, j'ai vu la photo du type, parce que on publie.
Il a une gueule de BD.
On publie une photo d'époque à la fin de l'album, mais il a vraiment la gueule de la façon dont HG l'a représenté, avec ses grandes moustaches tombantes. Il a une dégaine extraordinaire et son grand manteau comme ça. Donc il est cinématographique déjà. Hein.
Oui, mais ça veut dire, Jules, que finalement les rôles ils sont pas si séparés que ça. Le dessinateur et le scénariste d'un côté. Vous travaillez vraiment ensemble pour bâtir l'histoire.
Ça part de plein de discussions. Moi, je suis historien de formation, mais l'Ouest et les États-Unis, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Je connais plutôt autre chose. Moi, je viens plutôt de l'histoire chinoise, vous voyez. Donc, ça me sert pas à grand chose. En revanche, Hervé, ça fait quand même plus d'années qu'il est plongé dans Lucky Luke. Et il a notamment aussi une documentation, entre autres photographique, remarquable. Et donc, moi, je lui fais énormément confiance. Très souvent, il me corrige sur des trucs. Je me souviens pour un album précédent, où je faisais comme ça, de manière un peu légère, une scène où Lucky Luke discutait en se brossant les dents. Et en fait, Hervé m'avait dit mais la brosse à dents, elle n'était pas encore répandue à cette époque. Les gens se brossaient pas les dents comme ça. Ah oui. Et d'un coup, mince, j'avais jamais pensé à ça. Donc ça peut être assez scrupuleux. Et enfin, l'œil de Moscou, l'œil de Houston, c'est plutôt Hervé pour le.
Mais est-ce que vous faites aussi, vous Jules, des retours justement sur ces dessins en lui disant ah oui, mais là la caractéristique, le personnage,
on a
tel que tu l'as dessiné, ça correspond pas vraiment.
On a beaucoup d'échanges, mais parfois c'est plus par rapport à tel tempérament.
Mais il y a eu une case, par exemple, où moi j'avais interprété d'une certaine façon, et en fait, c'était pas dans cette optique, et donc j'ai refait.
Mais parfois, parfois, je vais un petit peu vite aussi dans les indications, et je me dis ah ouais non, j'aurais peut-être dû dire l'enfant il est plutôt comme ci, la femme elle est plutôt comme ça. C'est un peu, vous savez, comme dans les pièces de théâtre, un scénario quand on le regarde, il y a des didascalies et donc et des indications de mise en scène. Plus ou moins développé, parfois il n'y en a pas du tout, parfois j'ai une idée très précise en tête. Donc de toute façon, un album, ça met 2 ans à être fait, du début du scénario, du moment où on choisit le thème, au moment où l'album sort colorisé, et donc il y a énormément de navettes.
De toute façon, c'est ça la collaboration, c'est ce mélange, c'est-à-dire c'est un peu comme un film de cinéma, c'est-à-dire que vous avez des couples scénariste-dessinateur où le scénariste impose toute une série de règles et l'illustrateur va faire qu'illustrer.
On a reçu plein dans cette émission.
Voilà, on travaille différemment, c'est-à-dire que il y a des moments le découpage est parfait et il y a rien à faire. Je pense notamment à la scène d'ouragan. Là, c'était très génie avec des découpages comme ça, il y a rien à faire. Et puis par moment, moi, c'est l'image qui va me guider et je vais être obligé de modifier ce découpage parce que je suis obligé aussi d'amener des moments d'image parce que c'est quand même un album. On est d'accord avec Jules. Il nous aurait fallu 55 planches ou 60 planches.
Ah c'est toujours frustrant.
Et c'est toujours frustrant.
On a 46.
Et on a 44 planches réelles. Et on se dit, on peut pas aller. C'est un code, il faut le faire. Et donc c'est vrai que par moment, la mise en scène joue là-dessus. On peut raccourcir, rallonger. Ça fait partie à la fois du travail du dessinateur. Et mais c'est un mélange. Et c'est ça qui est bien.
Mais il y a aussi la caractérisation des personnages, parce que on est vraiment dans des personnages qui portent leur caractère, leurs émotions sur le visage, quoi. C'est très très important. On est finalement dans un travail HD qui est pas très très loin de la caricature.
Oui, parce que de toute façon, moi j'aimerais en mettre plus, et je pense que pour les prochains albums, j'imposerai quand même un peu plus de caricature. Je suis honnête, j'aurais aimé mettre quand même quelques. Alors j'en ai glissé,
j'ai rien dit.
De la même manière, c'est vrai que Angela, bon, on l'a quand même rendue. Bon, il faut toujours un peu une pin-up, mais c'est vrai qu'au départ, moi j'avais mis Harriet Tubman, qui est quand même une héroïne de l'histoire américaine. Bon, évidemment, correspond pas forcément. J'avais pensé aussi à Nina Simone, qui était quelqu'un de très important dans cette lutte. Bon, après, ce sont des caractères, faut faire des choix. L'éditrice décide aussi. Elle est un peu notre juge de paix entre le scénariste et le dessinateur. Il y a un moment, il faut partir dans une direction. C'est ça aussi qui fait qu'un album est un mélange de plein de choses. Il faut à la fois satisfaire l'œil, il faut donner l'envie de tourner la page, il faut faire rire, il faut faire réfléchir, sans pour autant donner de leçons, et tout ça, c'est l'affaire d'un couple qui, des fois, n'est pas d'accord, parce que nous sommes comme des vrais couples, hein, on en est nos noces de coton, d'ailleurs.
Eh bien, félicitations, ça tombe très bien.
Et c'est ça qui est bien, parce que ça...
Joli clin d'œil. De noces de plomb à noces de coton.
Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, finalement, c'est un échange. Et puis après, on a le retour des lecteurs qui vont aussi construire nos futurs albums.
Oui.
Lonesome Cowboy.
C'est la chanson générique, la chanson culte des aventures de Lucky Luke, le cowboy solitaire loin de chez lui, qui est donc votre personnage depuis l'album Terre Promise sorti en 2016. Jules et HD, enfin Jules surtout donc en 2016. Hein, vous HD, vous avez repris officiellement la suite de Maurice après son décès en 2001.
Oui. Hein,
c'était La Belle Province, oui, en 2004 avec Laurent Gérard au scénario. Oui. Ensuite, il y a eu le tandem Pénac-Benacquista, le duo Gérard-Pessy sur un album hommage au Tonton Flingueur. Et donc aujourd'hui, Jules, alors l'éternelle question quand on reprend un héros, a fortiori un héros aussi populaire que Lucky Luke, c'est évidemment de savoir quelle marge de liberté on s'autorise. Le souci majeur, c'est de rester fidèle, Jules, à l'esprit de Maurice.
Oui, principal.
De Maurice et de Goscinny, les deux.
Oui, enfin à l'esprit de Lucky Luke, tout simplement, avec cette dimension tout public. Jeunesse, parents, grands-parents, ça j'y tiens énormément. Moi j'aime beaucoup la marque qu'a apporté Goscinny, qui sont les différents niveaux de lecture, le fait qu'on, à chaque fois qu'on relit un Lucky Luke, on découvre des nouvelles choses en fonction de qui on est. Hein. C'est une clé pour plein de choses.
C'est aussi
choses.
Le cas dans cet album.
Voilà, et il y a plein, en fait, il y a quelques petits codes plus ou moins tacites qu'on connaît tous. On nous interpelle très souvent sur l'histoire de la cigarette, de Lucky Luke, on va pas oui. le refaire fumer. Bon, ça fait quand même depuis 1983 hein, qu'il n'a plus de cigarette, ça fait 37 ans, donc bon, il est temps d'assumer le truc. Mais effectivement, on voit pas de cadavre, de sang, ce qui est un peu délicat dans une histoire comme ça, justement, où, en fin de compte, la torture, les lynchages, les pendaisons étaient monnaie courante.
Ça, c'est inimaginable.
Oui, voilà, il y a quelques petits rares exemples anciens où il y a pu avoir des choses comme ça, mais ça fait pas partie de l'esprit de la série, donc il faut trouver des moyens indirects de l'évoquer, hein. Et puis, voilà, ensuite, il faut pas en faire quelque chose d'autre que ce que c'est. Il n'y a pas d'anachronisme dans Lucky Luke, de temps en temps, il y a des petits clins d'œil, il y a des références qui font appel à des choses d'aujourd'hui, mais on peut l'interpréter comme des espèces de signes avant-coureurs, mais pas d'anachronisme. On n'est pas dans la... Moi, ce que je fais avec Silex and the City, qui est vraiment dans la satire politique grinçante, le commentaire de l'actualité, là, c'est complètement autre chose. Il faut être fidèle à ça.
Oui, mais là, on est aussi dans l'esprit Goscinny, qu'on pouvait voir aussi dans Astérix. Hein. D'ailleurs, ces petites références à l'époque contemporaine, alors que l'histoire se passe à l'Antiquité.
Oui, enfin, en fait, ça...
C'est plus des thèmes universels.
C'est des thèmes universels, et c'est la preuve qu'en fait, Lucky Luke, aujourd'hui, a encore une raison d'être. Il n'y a pas de règle absolue, de religion qui dirait il faut absolument que les séries patrimoniales continuent à vivre après la mort de leur créateur. À l'inverse, il n'y a pas d'interdit non plus. Je pense que ça a du sens à partir du moment où ça résonne encore avec aujourd'hui, où le lecteur d'aujourd'hui il trouve quelque chose autre que voilà de l'archéologie, je dirais culturelle. Probablement il y a des séries magnifiques. Je pense au Pied Nickelé en fait, qui sont rentrées dans le domaine public hein, il y a quelques années de ça. Il y a eu un certain nombre d'albums des Pieds Nickelés que différents éditeurs ont publié puisqu'on avait le droit de s'emparer de ces personnages. Et puis ça fonctionnait pas tellement. On s'est rendu compte que probablement la série avait vécu sa vie, qu'elle n'était plus tellement d'actualité aujourd'hui, que l'œil du lecteur moderne finalement se détournait un peu de ça parce que voilà, c'était du passé. Pour Lucky Luke, c'est évidemment pas le cas. C'est vraiment très très vivant, très incarné. Je trouve que le sang coule vraiment encore bien, de manière bien fluide dans ses veines.
Lucky Luke, c'est un peu comme Astérix. Ce sont des séries qui sont situées dans une période bien précise historiquement. Astérix, c'est l'époque gauloise, gallo-romaine, et Lucky Luke, c'est l'western. L'avantage, c'est qu'on est hors de notre temps. Donc, on peut se permettre d'aborder des sujets universels ou des sujets historiques, on arrive à dépayser le lecteur. Et de toute façon, dans tous les cas de figure, ça sera le lecteur qui le décidera. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à travailler avec Maurice de son vivant sur En Temps Plan, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur son univers. Et moi, je me rappelle, il me disait toujours, Lucky Luke peut s'emparer de n'importe quel sujet, ça reste un cow-boy, et c'est un héros par définition. Donc un héros peut aller n'importe où, avoir n'importe quelle aventure, et donc s'emparer de toutes tous les sujets possibles. Et ça, c'est facile. C'est plus compliqué, je pense, avec un héros moderne, c'est-à-dire qui se passe même ne serait-ce que les années 2000. On se rend compte que là, le côté chronologique et de la mode, de l'état d'esprit, de la façon de vivre, est très handicapante pour raconter un récit. Regardez par exemple le cinéma. Quand vous regardez maintenant un film des années 70-80, eh ben ça vous paraît antidiluvien. Pourquoi ? Parce que les bureaux n'ont pas d'ordinateur. C'est un truc très bête. L'avantage de Lucky Luke, c'est assez lointain. Donc, c'est une époque qui est bien marquée. Et là, on peut s'amuser à aborder n'importe quel sujet. Et c'est vrai que, bon, avant même d'avoir fait le premier Lucky Luke avec Laurent Gérard, j'avais commis un Lucky Luke sur un scénario de Claude Guilloui qui n'avait pas pu terminer Maurice, qui s'appelait Le Cuisinier Français, où on avait abordé un autre pan de l'histoire américaine qui était la création du hamburger.
Ah oui, quand même.
Voilà, et on s'était amusé avec ça. Donc voilà, c'était le hambourgeois, et on s'était amusé sur ça. Donc en fait, on peut aller sur des sujets graves comme des sujets heureux, humoristiques. Et c'est ça l'avantage de cette série.
Ah, il se trouve juste que vous avez, en janvier dernier, participé à l'inauguration de la statue de René Goscinny, qui a été donc évidemment le scénariste de d'Astérix, mais aussi le scénariste de Lucky Luke dans les années 55-77.
Hein, avant son
décès. La statue est installée à Paris dans le 16e arrondissement, et vous êtes monté, Jules, dire quelques mots au micro aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors la prise de son est pas excellente, mais on a quand même retrouvé la chiffre.
Ce qui parle à tout le monde, par-delà les classes sociales, par-delà les espaces géographiques, par-delà toutes les détestations de ces micro-communautés qui aujourd'hui animent un peu le drame français, c'est la BD. Et en fait, à lui tout seul, René Goscinny incarne cette union-là, en fait. Et il réussit donc ce prodige de continuer, encore aujourd'hui, de réunir un peuple. Et aussi au-delà des préconisations automatiques des big data, qui fait que tous les goûts sont déjà pré-mâchés, on nous donne à consommer des choses qui nous ressemblent, il y a une culture qui est consommée par itération, et au-delà de ça, 3 générations, 4 générations sous un même toit, un peu partout, continuent de partager l'album bande dessinée et les livres de René Goscinny. Voilà, tout le monde lit Goscinny. Son œuvre nous unit, voilà, le sentiment de l'intelligence partagée nous grandit, et il y a un vrai effet potion magique, c'est une sorte d'antidote aux forces de destruction qui nous rongent. Donc finalement, c'est toujours un peu un paradoxe, un peu dérisoire dans les moments de désarroi, de déployer des statues, de distribuer des décorations, de faire des discours. Je pense que probablement de là, il aurait saisi toute l'ironie aussi de la situation. Mais en même temps, de le voir en pied, comme ça, avec son air malicieux, ça dégage quand même quelque chose de sympathique. On sait bien que les statues, passé le moment de l'inauguration, ça intéresse surtout les pigeons et les enfants. Et je pense que ça lui aurait pas mal plu. Voilà, il est bien droit, il y a une cravate, c'est l'époque où les auteurs de bande dessinée portaient des cravates. Voilà, cette rectitude-là, ça rappelle aussi que face à l'aplatissement des passions et des pulsions, il y a une verticalité du rire qu'il a su tellement incarner. Donc voilà, Goscinny chasse la mort, Goscinny chasse la tristesse, Goscinny c'est la vie, Goscinny c'est la France.
Ouais, et depuis janvier dernier, Jules, le vent contraire ne faiblit pas, qu'il s'agisse du terrorisme, de la crise sanitaire, des crispations, des divisions de la société française. Vous pensez vraiment que la bande dessinée peut être une réponse ?
Je pense que notre Lucky Luke devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui, je pense, voilà, c'est important. En fait, il y a quelque chose de magnifique dans cette culture populaire, toute génération. Il y a plus grand chose, comme j'ai essayé de l'évoquer là à cette occasion, qui réunissent tout le monde pour faire nation, faire peuple. Quoi de plus beau que de se retrouver autour d'un personnage qui est quand même une série qui est vraiment vecteur d'humanité. Je crois que c'est ça les valeurs de Lucky Luke, c'est avant tout une humanité très élémentaire, très simple, très joyeuse. Donc, en fin de compte, on en a vraiment besoin. Passer de la connaissance à travers l'humour, à travers ce vecteur de la bande dessinée, il y a une vertu éducative, une vertu de transmission, qui est celle des professeurs. On voit bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui à enseigner et à enseigner l'esprit critique, plus que jamais. Et donc, dans des moments douloureux comme en ce moment, avoir un album qui évoque des questions qui sont, d'ailleurs, au programme des collèges, hein, la transmission de la mémoire de l'esclavage, de la ségrégation raciale, elle est au programme de l'éducation, de l'histoire géo et de l'éducation civique. Les profs ont cruellement besoin de matériaux, hein, pour nourrir tout ça. On sait que ça fait partie des thèmes, évidemment, avec les histoires de religion et d'esprit critique, qui peuvent diviser très très fortement les classes et qui peuvent vraiment semer la tempête dans une classe de collège quand on aborde ces questions d'esclavage. Et peut-être que cet album aura une vertu, je dirais, pour avancer ensemble vers quelque chose d'un peu moins enténébré.
Eh bien, acceptons-en l'augure. Merci beaucoup, Julie HD, d'être venu nous voir. L'album Un Cowboy dans le coton, disponible chez Lucky Comics. Un album que vous allez, vous qui nous écoutez, pouvoir gagner en répondant à la question du jour. En message privé, bien sûr, à partir de la page Facebook de l'émission, en précisant d'ailleurs la ville où vous résidez. La question est la suivante. Dans quel état du sud des États-Unis se déroule l'histoire? 4 albums sont à gagner. Dans l'actualité culturelle française, il y a aussi en cette deuxième semaine des vacances de la Toussaint, la semaine d'art à Avignon qui remplace en quelque sorte le festival d'Avignon qui n'a pas eu lieu l'été dernier à cause de la crise sanitaire. Remplacement en version automnale et peau de chagrin. Marjorie Bertin, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. J'imagine qu'on est assez loin cette fois de la cohue festive de la Cité des Papes. Hein. Comment ça se passe ?
Ah, c'est très très calme et il faut bien le dire un peu morose, hein. Surtout le soir à cause du couvre-feu.
Oui, on dirait un petit peu une ville fantôme. Hein.
Ah, ça n'a rien à voir avec l'ambiance estivale où la population se multiplie par 7. En 2019, Ineof avait vendu 200 000 billets. Cette semaine, le festival a 5 000 places. On est donc sur du mini-festival, tout est maintenu, mais à 14h, 16h, ou pire 18h, ce qui empêche les spectateurs qui travaillent de venir la semaine. Heureusement qu'il y a le week-end.
Alors, qui est là en ce moment, Marjorie? Beaucoup de professionnels du spectacle, des artistes, des journalistes, j'imagine?
Oui, en plus, c'était le premier week-end avec des premières très attendues comme celle de Trace ou du Jeu des Ombres. Donc, c'est un peu difficile de débusquer un festivalier pur sucre à Avignon en ce moment, mais j'en ai trouvé notamment Léa Avignonnaise et sa mère Karine.
Moi, j'aime beaucoup le festival et je suis étudiante à Paris et donc c'était l'occasion de revenir.
Donc, vous êtes venue de Paris exprès pour la semaine d'art?
Pour le week-end.
En tant qu'avignonnaise, vous devez vraiment très bien connaître la ville pendant le festival. C'est très différent.
Voilà, ça n'a rien à voir. Non, là, c'est pas le festival du tout. Hein. C'est un week-end un peu comme un autre. On va voir une exposition et un spectacle. Mais pour le moment, en tout cas, on n'a pas ressenti du tout le festival.
Et du côté des restaurateurs, des commerçants d'Avignon, comment ça se passe? Parce que quand même, d'habitude, Marjorie, les retombées économiques du festival sont estimées à 100 millions d'euros pour le seul mois de juillet.
Oui, grâce à des dizaines de milliers de personnes qui viennent du monde entier. Et donc, la semaine d'art, c'est un petit confetti pour les restaurateurs. Hein. C'est morose, d'autant que depuis le mois de mars, il n'y a plus de touristes internationaux. Place de l'Horloge, hier midi, j'ai rencontré Tony, un monsieur qui travaille à la Brasserie des Arts depuis très longtemps.
Ça fait juste 59 ans.
Vous avez dû en voir des festivals?
On a vu des festivals annulés, de tout.
Vous attendez quelque chose de cette semaine d'art?
Là, on n'attend rien parce que c'est la maladie, donc il faut faire avec. Mais quand même, nous, en tant que restaurateurs, ils pouvaient nous donner une heure de plus le soir pour qu'on puisse servir les gens. Parce qu'à 9h, on ne mangera pas. Hein.
Bon, mais vous avez quand même le temps de manger, Marjorie.
Oh, vous me connaissez, je combine les deux, comme cette spectatrice passionnée.
Je suis ravie que le festival ait pris cette initiative. On a besoin de spectacles plus que jamais. Je crois qu'on a plus que jamais besoin d'art et d'artistes pour supporter le monde tel qu'il est.
Alors dites-nous, Marjorie, il y a combien de spectacles dans le festival IN de cette semaine d'art?
7 sur 47 prévus. Paul Rondin, qui est le directeur délégué du Festival d'Avignon, m'a raconté comment le choix de ces spectacles s'est mis en place.
On a appelé chaque compagnie, chaque artiste, et on lui a demandé, est-ce que vous êtes en mesure de présenter un spectacle à l'automne? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous êtes en mesure de présenter un spectacle en juillet 2021? Est-ce que vous le souhaitez? Ou est-ce que vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre? Et auquel cas, on indemnise la compagnie. Ces 7-là, ils étaient presque prêts, donc on a pu les aider à arriver jusqu'au bout, et être présentés là tout de suite pour que ils partent en tournée autant que faire se peut en ce moment.
Et vous aviez envie de nous parler de Trace, discours aux nations africaines, un spectacle que vous avez vu, Marjorie, à la collection Lambert.
Oui, et un beau spectacle plein d'espoir, ça fait du bien. C'est un monologue de Félouine Sarr, l'écrivain et économiste sénégalais qui a élaboré le rapport Sarr-Savoie au président Macron sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Et dans Trace, c'est le retour d'un homme sur le continent après l'exil, un homme qui prend la parole pour exhorter les jeunes à aller de l'avant, sans rancune et avec intelligence.
Nous ne devons plus accepter d'être ce champ du monde que l'on dévaste, cette mine que l'on exploite et que l'on laisse exsangue, cette rivière que l'on assèche après en avoir bu l'eau, cette forêt dont on coupe les arbres après s'être abrité sous leur feuillage ombrageux. Nous ne devons plus accepter.
C'est aussi l'histoire lucide et dense, forcément, des nations africaines. Par contraste, le metteur en scène, Étienne Minungu, a choisi la simplicité, ce qui lui permet de déployer ses talents de conteur, et ceux du musicien Simon Wintse, qui l'accompagne à la kora, l'arcabouche et à la flûte peule. Tout ça nous transporte en Afrique, mais pas seulement, Étienne Minungu.
Le choix esthétique que nous avons fait, c'est d'en faire une conversation avec le public, une sorte de palabre sous le grand arbre où il y a un qui se lève et qui dit qu'il a quelque chose à dire et à raconter.
Et ça fonctionne très bien. Il faut dire qu'Étienne Minungu ne lâche jamais son spectateur et que la musique de Simon Winsey le guide. Normal, c'est un griot, un passeur de légendes.
La musique avec la parole, c'est les deux grands amis qui sont ensemble toujours. Le conte ou l'arbre à palabre, c'est le moment des discussions. Et puis, comme j'ai dit, c'est un griot. Les griots, son travail aussi, ça accompagne aussi les jeunes qui ont eu des espérances. Ils sont partis aussi loin pour revenir, pour nous raconter des histoires, dont on essaie de les accompagner.
Donc la petite histoire rencontre la grande pour raconter l'exploitation, le colonialisme, la spoliation des richesses, les guerres, les traces du passé pour dessiner un avenir qui doit aussi passer par un changement lexical.
Oh, sous-développé. Comment est-ce que nous avons pu même accepter d'être désignés ainsi sous-développé?
Donc Trace s'adresse aussi bien à l'Afrique qu'à l'Europe. Un beau moment de réflexion et de partage.
C'était la collection Lambert jusqu'à mardi. Ensuite au Récréatral de Ouagadougou au Burkina Faso et en tournée. Un discours qui était enregistré par RFI dans le cadre de cette édition 2020 du cycle ça va le monde. Vous avez déjà pu l'entendre sur RFI et on peut l'écouter en intégralité sur RFI.fr. Merci Marjorie. Dans une poignée de secondes, l'info sur la radio du monde. On se retrouve demain avec Catherine Fraud, la comédienne, et Klaus Drexel, le réalisateur, pour le film Sous les étoiles de Paris. Et vous m'en direz des nouvelles. Na bangisan, na bangisan, si.